Radio Okapi. Journal présenté par Belinda Bossouma.
Un an du gouvernement souminois, les avis sont partagés quant au bilan. Certains Congolais évoquent un bilan négatif, allusion faite notamment à l'occupation d'une partie du pays par des rebelles, tandis que d'autres saluent le travail réalisé par quelques ministres, notamment dans la diplomatie. Réduire les risques des violences dans les zones affectées par les conflits armés, c'est le but d'une formation sur le système d'alerte précoce débutée hier à Bounia en Ituri. C'est à l'intention des acteurs communautaires et étatiques du territoire d'Irumu. Et puis, l'invité de ce matin, Joëlle Bilé, candidate malheureuse à la présidentielle de 2023 et experte en communication, elle nous parle de l'activité qu'elle organise demain à Kinshasa, soit la première édition du Café littéraire centré sur la gestion et les enjeux de l'eau en RDC. À tous et à toutes, bonjour. Le gouvernement Judith Suminwa totalise une année à la tête du pays. Pour plusieurs personnes interrogées, le bilan est négatif. Elles en veulent pour preuve l'occupation toujours en cours d'une partie du pays par des rebelles appuyés par le Rwanda, l'insécurité grandissante dans la capitale. Elles fustigent également le manque d'évolution sur le plan économique dans le secteur de l'emploi ainsi que dans le social. Toutefois, une autre frange des Congolais salue le travail réalisé par quelques ministres, notamment dans la diplomatie, et certains Kinois, habitants des coins jadis enclavés, applaudissent des projets routiers en cours chez eux. Suivez les avis des uns et des autres.
Madame Suminwa nous a amené un programme de gouvernance, mais rien ne s'est réalisé. Aucun secteur n'a été développé. Nous sommes en train d'évoluer dans une gouvernance des promesses.
Le bilan est largement négatif. On attendait que ce gouvernement nous résout les problèmes de l'Est. La situation s'est aggravée par contre. La crise économique persiste. Le taux d'échange, nous sommes à 2,89. S'il faut parler de la bonne gouvernance, c'est dans tous les ministères où on parle de détournement.
Beaucoup de jeunes sont en voie de des politiques qui juste.
Des provinces de notre pays est vraiment cédé. Nos FRDC n'arrivent pas à repousser l'armée rwandaise qui montre que Suminwa n'a rien fait.
Le bilan est moyen. La justice, il y a un changement positif. Affaires étrangères, Maman Thérèse Kitschako. Fonction publique aussi, le ministre Julien Paluku aussi. Et le reste, elle était des jussaires.
Aucune solution aux différents problèmes qu'elle a trouvés. Nous tournons en rond. Les sociales du peuple, c'est toujours les mêmes pleurs. La ville de Kinshasa est devenue invivable, embouteillage, sans sécurité.
Le gouvernement fournit quand même des efforts de stabiliser les taux d'échange et les carburants, que le gouvernement puisse travailler pour que nous puissions avoir aussi baisse de prix de première nécessité.
Il y a encore beaucoup à régler, mais dans un contexte de guerre, c'est un peu compliqué. Mais elle se bat.
La seule chose que Madame Suminwa a changé, c'est son habillement. Des belles photos et rien de plus.
Le ministre des Infrastructures et Travaux Publics salue l'avancement des travaux de la route nationale numéro 1 sur le tronçon Nguba-Luboudi dans la province du Lualaba. Alexis Guissaro séjourne dans cette province. Il va assister à la conférence des gouverneurs des provinces sur place. Il a fait ce constat après avoir inspecté cette route de 145 km accompagné du directeur général de l'Agence congolaise des grands travaux. Détail avec Blaise Ndongala Mayanda.
Ces membres du gouvernement a mis des heures pour parcourir 145 km du tronçon de la nationale numéro 1 reliant Nguba à Luboudi, ce qui était inimaginable il y a quelques temps avant le début des travaux réalisés par l'entreprise chinoise CISC et ses sous-traitants sous l'encadrement de l'Agence congolaise des grands travaux. Sur les 26 premiers kilomètres du point kilométrique zéro au village Mwenda Mukuse, la transformation est en cours grâce à l'entreprise Sinohydro. Les sols en terre disparaissent progressivement pour laisser place à un revêtement en enduit en monocouche qui sera bientôt recouvert d'une couche de roulement à béton bitumé. Ayant roulé aisement jusqu'à atteindre les territoires de Luboudi, Alexis Guissaro félicite la CGT, les BTC et l'entreprise Cisco pour leur engagement à concrétiser la promesse du chef de l'État de doter le pays de cette route essentielle à son développement.
Nous sommes heureux d'être ici dans le territoire de Luboudi pour constater effectivement que l'état d'avancement est satisfaisant. À l'achèvement de ce projet, nous allons connecter toute la route nationale numéro 1.
Lancée en juin 2024, les travaux de cette route de 870 km devront s'achever à la fin de l'année 2027.
L'actualité, c'est aussi la signature solennelle du code de bonne conduite hier jeudi au Centre d'études pour l'action sociale CEPAS à Kinshasa. Les communicants politiques de la majorité présidentielle et ceux de l'opposition ont manifesté leur souci de vulgariser ce document. Il s'agit d'une prise d'engagement des communicants politiques à une communication constructive et à l'atténuation de la violence dans le débat politique. Cette activité s'est tenue à la suite de l'atelier de renforcement des capacités organisé du 29 au 30 mai dernier par la dynamique des politologues d'IPOL en partenariat avec la MONUSCO et le CEPAS. Compte rendu de Étienne Lissoumbo.
Dans le cadre de la démarche entamée depuis au moins 2 mois sur l'engagement des communicants des partis politiques, une trentaine de communicants, après lecture et explication des articles de ces codes de bonne conduite, ont pris acte. Landry Lingele, consultant au CEPAS, s'est dit satisfait des résultats.
Nous sommes plus ou moins satisfaits parce que ce sont les communicateurs politiques qui sont, c'est eux qui sont à l'avant-garde du combat politique dans les médias, qui ont consenti à signer ces codes de bonne conduite.
Pour le communicant Paul Ntumba, de Piste, parti de l'opposition, cette procédure est à encourager. Il invite les autres à mettre en pratique ce code de bonne conduite.
Nous sommes adversaires, nous ne sommes pas ennemis. C'est-à-dire sur des plateformes, sur les médias et tout. C'est-à-dire nous avons des adversités, mais nous ne sommes pas des ennemis. J'ai signé cet acte d'engagement pour ma bonne conduite et la bonne conduite de mon parti.
Michel Omenga de l'UNC, parti de la majorité, soutient également l'idée d'avoir un discours qui promeut la paix.
Nous devons tous voir la patrie avant nos partis. Privilégions l'intérêt national, privilégions des discours qui facilitent à l'unité. Aujourd'hui, si on n'a pas d'unité, si on n'a pas de cohésion, on n'ira nulle part.
Un acte d'engagement a été lu en toutes les langues nationales par les communicants politiques de l'opposition et de la majorité pour une bonne vulgarisation du texte.
Comment découvrir les premiers signes à la base des violences, les analyser avant de les transmettre aux responsables sécuritaires pour une intervention? C'est l'objet d'une formation de renforcement des capacités sur le système d'alerte précoce. Formation débutée hier à Bounia en Ituri, à l'intention des acteurs communautaires et étatiques du territoire d'Irumu. Organisée par le Centre de résolution des conflits, cet atelier vise à réduire les risques des violences dans les zones affectées par les conflits armés. Plus de détails avec Martial Kizabiamongo.
Des représentants des chefs coutumiers, communautés locales, des structures de jeunes, des responsables étatiques du Romo prennent part à ces assises. Selon Papi Kasereka, responsable du forum de paix de Beni, principal formateur, cet atelier vise à renforcer les capacités des participants sur les mécanismes de prévention non armés à base communautaire afin que ces acteurs locaux soient à mesure de détecter les premiers signes avant-coureurs des violences.
Nous voulions esquisser des compétences nécessaires pour détecter les premiers signes de violence, transmettre auprès des autorités étatiques pour que ces derniers puissent agir.
Selon Jean-Pierre Lébissabo, l'un des représentants du chef coutumier, cette formation vient corriger les failles qu'ils avaient dans la récolte des données sécuritaires et celles liées au conflit foncier pour une résolution pacifique.
Auparavant, on récoltait des données, mais il y avait des failles, surtout sur des analyses et des collectes de données. Et voilà que CRC vient encore aux édifiés et ajouter un plus.
Cette formation qui va durer 5 jours s'inscrit dans le cadre d'une collaboration entre les forums de paix de Beni et les centres de résolution des conflits de Bounia. Bounia, Martial Kizabiamongo, Radio Okapi.
Dans l'actualité aussi, la Voix des sans-voix pour les droits de l'homme, VSV, dit craindre pour l'intégrité physique du député honoraire Kovo Ingila au cadre du MLC, parti cher à Jean-Pierre Bemba Gombo. Dans une tribune offerte hier jeudi à sa famille, la VSV fait savoir que l'ancien député a été enlevé de son domicile et interpellé le 26 mai dernier vers 1h du matin par des hommes en armes sans motif. Il est détenu au Conseil national de cyberdéfense depuis 19 jours, mais sa famille et son avocat n'ont pas accès à lui et non plus de ses nouvelles, dit-il. Interpellant ainsi le chef de l'État, ces derniers plaident pour que Kovo Ingila soit présenté à son juge naturel, soit carrément être libéré. On écoute à ce sujet l'avocat de la famille qui relate les faits, maître Serge Mayamba, est au micro de Jeff Ngoy.
Le député national honoraire Ingila Bokondo, du reste vice-président interfédéral du mouvement de libération du Congo, parti cher à monsieur Jean-Pierre Bemba, a été pris à son domicile de manière peu recommandable. Il y a donc des hommes habillés en tenue de la garde républicaine, en tenue de la police et d'autres en tenue civile qui se sont introduits dans son domicile par effraction en faisant usage d'un véhicule de l'armée qui a eu à casser le portail et cette irruption s'est matérialisée finalement par sa prise. Dans un premier temps, il a été dit qu'il était acheminé au camp Tchatchi, mais après moult recherches, il a été retrouvé aux installations du Conseil national de cyberdéfense. Et depuis ces jours, tout ce qui a été entrepris pour le retrouver n'a abouti à rien. Donc il n'y a pas droit de visite. Et aujourd'hui, nous tous nous craignons pour l'intégrité physique de l'honorable Kovo Ingila.
Selon l'avocat de la famille de Kovo Ingila, entouré de sa mère et de son épouse en larmes, il n'y a aucun texte légal qui attribue au Conseil national de cyberdéfense la compétence d'arrêter et détenir illégalement des gens. Il s'agit là d'une atteinte grave aux droits et libertés des personnes. L'Observatoire de la liberté de la presse en Afrique, OLPA, dit prendre acte de la libération de Willy Albert Kandé, Laurent Ngala et Don Kubutana, respectivement journaliste sportif, sous-directeur et monteur à la télévision publique RTNC. Dans son communiqué de presse rendu public hier jeudi à Kinshasa, cette ONG de défense et de promotion de la liberté de la presse condamne fermement l'interpellation de ces personnes. Interpellation qu'elle qualifie de violation de la liberté de presse. OLPA signale que les journalistes ont été relaxés le 11 juin avant minuit après plusieurs heures d'interrogatoire au siège du Conseil national de cyberdéfense à Kinshasa. L'ONG rappelle que ces professionnels des médias ont été interpellés pour avoir animé une émission spéciale le 8 juin au cours de laquelle ils sont reprochés d'avoir terni l'image de la RDC en stigmatisant le manque d'entretien des installations et de la déventure du stade des martyrs de la Pentecôte, ce à quelques semaines du démarrage des éliminations de la Coupe du Monde 2026. Justice. Le verdict est tombé hier jeudi au procès des braqueurs de l'Embafoire à Kinshasa, procès tenu devant le tribunal militaire garnison de Kinshasa Matete. Sur les deux prévenus poursuivis, seul Prosper Njeka écope de la peine capitale. Son co-accusé Yannick a été simplement acquitté et libéré immédiatement sous les acclamations du public. Rappelons que ces deux personnes ont été appréhendées par la police après avoir extorqué une moto en tirant des balles en l'air. Cela s'est passé c'est lundi devant la Fikine, sémant ainsi la panique. Reportage signé Jeff Ngoy.
La population de l'Embafoire accueille par ses acclamations et cris de joie la sentence. Le juge et président prononce le jugement.
Ils envoient, dit non établi, en fait qu'on envoie les déclarations des prochains au préveri Makoundou Yannick, les déclarent non coupables. En conséquence, l'anarchie finit vraiment très simplement. Et les renvois ont fait des poursuites sans frais. Ordonne sa libération immédiate, sans condition. Dit établi, en fait qu'on envoie les préventions d'assassinat du malfaiteur, vols armés armés, les détentions légales d'armes, fusils, saisies régulièrement.
Commencé mercredi, cette procédure de flagrance se clôture en foraine à découvert dans un bar populaire de Lemba où les juges, après avoir suspendu l'audience pour plusieurs heures, ont eu le temps d'assouvir leur soif.
La mission de la SADC en RDC a commencé mercredi la deuxième phase du retrait progressif de ses contingents de la ville de Goma et de la cité de Sake dans le territoire de Masisi au nord Kivu. L'annonce est contenue dans un communiqué de presse publié depuis Gaborone, capitale du Botswana, où se trouve le siège de la SADC. C'est cette opération qui justifie la présence des autocars ayant été vus se diriger vers la cité de Sake. Plotin Yambenga nous en dit plus.
Cette phase concerne les rapatriements du personnel de la mission SAMI RDC et de leurs effets personnels. La première phase, lancée le 29 avril 2025, avait concerné l'évacuation des équipements et autres logistiques. Les retraits officiels de la SAMI RDC avaient été annoncés le 1er mai 2025, une décision prise à l'issue du sommet extraordinaire des chefs d'État et des gouvernements des pays membres de la communauté de développement d'Afrique australe tenu le 13 mars 2025. Ainsi, les troupes actuellement stationnées à Goma et à Sake seront transportées vers la République unie de Tanzanie. Dès là, les contingents tanzaniens poursuivront vers Dar es Salaam. Quant aux Sud-Africains et aux Malawites, ils seront transportés par voie aérienne vers leurs pays respectifs, précise les communiqués. Les communiqués de la Force de défense nationale sud-africaine, datés de mercredi à de son côté, annonçaient pour ce vendredi l'accueil du premier groupe de militaires et a participé à la mission de la SADC en RDC. Les retraits ordonnés de la SAMI RDC reflètent l'adhésion de la région au principe de sécurité collective et renforcent la détermination de la SADC à soutenir la résolution pacifique des conflits et la stabilité à long terme en RDC, souligne les communiqués de l'organisation régionale.
Actualité internationale. Le Conseil des ministres du Mali a adopté cette semaine un projet de loi controversé accordant au chef de la junte militaire 5 années supplémentaires au pouvoir. Le général Assimi Goïta dirige le Mali depuis qu'il a orchestré 2 coups d'État en 2020 et 2021. Cette décision fait suite à la dissolution des partis politiques par le régime militaire en mai dernier. Le projet de loi doit maintenant être ratifié par le Conseil national de transition, l'organe législatif chargé de superviser la transition.
L'invité.
Candidate malheureuse à la présidentielle de 2023 et experte en communication, Joëlle Bilé organise demain samedi à Kinshasa la première édition du café littéraire centré sur la gestion et les enjeux de l'eau en RDC. Invitée de Radio Capi, elle explique que cette rencontre s'est vue un moment de réflexion et de dialogue interdisciplinaire sur les défis liés à cette ressource vitale. À travers ce rendez-vous, elle vise à amener les gens à proposer des pistes de solutions pour une bonne gestion de l'eau en RDC. Joëlle Bilé est avec Blaise Ndonga Lamanda.
Bonjour Madame Joëlle Bilé.
Bonjour Monsieur le journaliste.
Candidate à la présidentielle de 2023, vous organisez un café littéraire autour de la gouvernance de l'eau en RDC, de la politique à l'environnement. Comment expliquez-vous ces changements de narratif?
Avant d'être candidate, j'ai toujours été dans le domaine de la littérature, de l'art, de l'événementiel. Je suis journaliste de formation, faut pas l'oublier. J'ai une agence en communication et c'est dans ce cadre que nous avons estimé pouvoir faire une activité à la fois constructive, instructive, mais aussi comme un sas de décompression, parce que on peut comprendre que la situation n'est pas toujours très évidente. Donc mettre les gens ensemble pour lire, pour avoir la passion de l'art de l'écriture et l'art de la lecture, c'est un moment de décompression tout en étant dans le savoir et dans la connaissance. Donc on dit lier l'utile à l'agréable.
Vous parlez d'un domaine bien précis de la gouvernance de l'eau qui fait des à travers le monde. Quelle analyse faites-vous de cette gouvernance dans notre pays?
Est-ce que l'eau du Congo sera utilisée comme voie de communication à travers le fleuve et nos différentes rivières? Est-ce que l'eau peut être vue comme une matière première essentielle aujourd'hui pour notre économie? Là, je parle des brasseurs, je parle des fabricants. Donc, vraiment, ça sera vu sous plusieurs angles et de manière purement scientifique. Donc, 2 professeurs d'université viendront nous en faire l'économie et donc ça interviendra à l'issue de la partie littéraire où chaque intervenant viendra nous lire un ouvrage dont il a eu à cœur de partager avec la population. C'est vraiment une activité de pure détente, comme il y en a de moins en moins, malheureusement. Tout est politisé. De temps en temps, une ode à l'intelligence, une ode à la lumière et une ode au savoir. Je pense qu'on est appelé à le faire et c'est ce que je me fais le devoir de faire.
Si ce n'est pas un secret, pouvons-nous savoir les différents orateurs de ces forums?
Nous allons avoir 3 le professeur Jean-Pierre Pianac. Nous allons avoir un autre spécialiste en matière de droit de l'eau. Il s'agit du professeur Nzovu Asser. Nous aurons le professeur Kabasele aussi. Donc ça en fait déjà 3. Et puis les autres seront des intervenants qui poseront des questions pour mieux comprendre cette matière première, cette richesse dont nous sommes un des rares pays en Afrique à disposer, du moins avec l'importance de notre réseau hydrique. Donc réfléchir sur le moyen d'en faire un soft power demain. Je pense que c'est même un atout pour les Congolais parce qu'on a un peu tous les yeux focalisés sur la guerre qui nous est faite sur les minerais alors que demain, ça peut être la guerre de l'eau aussi. Alors comment se prémunir face à ça? Comment informer les participants face à ça? Comment réfléchir, pourquoi pas, sur des politiques publiques qui pourraient être formulées demain par nos parlementaires, nos dirigeants, et voilà. Mais en fait, l'objectif premier de ce café littéraire, c'est vraiment de venir passer un moment où entre intellectuels, on se parle sans passion, sans tendance partisane.
Vous êtes scientifique. Que préconisez-vous pour renverser la tendance en RDC où la majorité de la population n'a pas accès à l'eau potable?
Je pense qu'il y a moyen de faire les choses bien, de réfléchir sur un élément important. On dit l'eau, c'est la vie. Alors, parler de la vie entre Congolais devrait être un sujet très pertinent et pour lequel nous devons vraiment nous appesantir au maximum, d'où l'importance de plus en plus d'organiser comme ça des petits salons en aparté, on n'est pas nombreux, on parle entre intellectuels, on réfléchit sur certaines pistes de solutions, on analyse des analyses comparatives à comment ça se passe ailleurs, là où il n'y a pas d'eau. Comment est-ce qu'ils vivent? Et s'il arrivait que demain ce soit une denrée, que la RDC serait appelée à partager avec les autres, quelles seraient les modalités?
Madame Joëlle Billet, nous vous disons merci.
Notre invité répondait aux questions de Blaise Ndongala Mayanda. Par ici, prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi.